Vous êtes sur France Culture, tout de suite le journal de 6h30 avec Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, retour sur le premier débat des têtes de liste françaises aux élections européennes. Hier soir, un débat parfois confus du fait des temps de parole contraints, nous dira Élodie Forêt. Nous reviendrons également sur les commémorations des 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, avec une exposition présentée au mémorial de la Shoah à Paris et Drancy. Enfin, quand l'homme le plus riche du monde divorce, c'est la bourse américaine qui tremble. Jeff Bezos, le président d'Amazon, pourra garder la plupart de ses actions. Récit de Grégory Philips. 50 jours avant les élections européennes, ils étaient 12 réunis hier sur le plateau de France 2 et sur France Inter. 12 têtes de liste aux élections, donc pour le premier débat télévisé de ce genre. Un premier exercice parfois confus, mais la plupart des grands sujets européens ont pu être abordés. Gouvernance, fiscalité, écologie, immigration notamment. L'enjeu pour les petits candidats, comme on dit, c'était surtout de se faire connaître. Retour sur la soirée avec Élodie Forêt.
Attaqué de toutes parts.
Quand je vous entends, Madame Loiseau, expliquer que vous êtes fière, je vous le dis, vous devriez regarder vos pompes.
La candidate de La République En Marche, Nathalie Loiseau, peine à s'imposer.
Monsieur Baldella, vous êtes très grand, vous avez une grosse voix, on l'a tous compris, mais laissez-moi parler.
À ses côtés, donc, Jordan Bardella, jeune candidat RN, affiche un sourire serein, plus transparent la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, très mal à l'aise lorsqu'on évoque l'hypothèse d'une adhésion de la Serbie à l'UE. Lui est contre, mais d'autres dans son parti aurait voté pour, comme n'a pas manqué de lui rappeler Nicolas Dupont-Aignan.
Si vraiment vous avez un problème avec les membres de votre liste, moi je vous accueille sur la liste de Debout la France. Je serai très heureux.
Il y aura au moins quelqu'un.
À gauche, une bonne prestation du communiste Yann Brossa, très percutant, mais on retiendra surtout ce constat d'échec général dressé en conclusion par Raphaël Glucksmann.
Si la situation est si grave, pourquoi Benoît, pourquoi Yannick, on n'est pas en train de se battre ensemble? Notre comportement n'est pas du tout à la hauteur des périls et en fait on s'en mordra les doigts. L'histoire nous jugera.
Échec de la gauche, échec de l'Europe aussi, ironise François Asselineau.
Ce que je trouve fascinant, c'est que tous les sujets que l'on aborde, on montre que l'Europe ne marche pas.
Oui.
Le fondateur de l'UPR, qui sera le seul à se présenter en 2022 à la présidentielle, tous les autres se sont engagés, s'ils sont élus, à assumer leur mandat jusqu'au bout.
Élodie Forêt, Muriel Pénicaud ne devrait pas être poursuivie par la justice. Des juges d'instruction enquêtaient sur ses agissements à la tête de Business France, organisme chargé de la promotion de la France auprès des investisseurs étrangers, et plus particulièrement sur le financement d'un voyage de celui qui était ministre de l'économie à l'époque, Emmanuel Macron, un voyage à Las Vegas. L'enquête a blanchi, a priori, la ministre du Travail. Les précisions de Sarah Guibaudot.
Depuis sa nomination, ce dossier était comme une épée de Damoclès pour Muriel Pénicaud. Mais l'instruction s'achève et elle n'a été entendue que sous le statut de témoin assisté. Elle devrait donc sortir blanchie. En revanche, une ancienne cadre de Business France et le géant de l'événementiel Havas risquent d'être renvoyés en correctionnel. Depuis le début et après un rapport de l'inspection des finances, le parquet de Paris considère qu'il y aurait dû y avoir un appel d'offres pour l'organisation de cette soirée à 300 000 euros qui a permis à l'ambitieux Emmanuel Macron de s'afficher avec les start-up françaises. Un vrai show à l'américaine, mais monté en quelques semaines, ce qui explique en partie le dérapage financier. Havas maintient que l'opération s'intégrait dans un grand contrat global remporté, lui, après appel d'offres, sans convaincre la justice à ce stade. La justice qui ne retient pas non plus l'hypothèse d'une collusion entre l'entourage d'Emmanuel Macron et Havas.
Il y a 25 ans, près d'un million de personnes étaient massacrées au Rwanda, des Tutsis pour la plupart et des Hutus opposés au régime génocidaire. Sur les responsabilités notamment de la France dans ce génocide, il reste des zones d'ombre. L'association Survia, par exemple, lancé hier une campagne intitulée « 25 ans d'impunité ». Le mémorial de la Shoah à Paris présente, lui, une exposition dans la capitale, mais aussi à Drancy, en banlieue parisienne. Une exposition qui interroge les raisons de ce génocide rwandais, avec en sous-texte cette question « Comment enseigner les génocides, notamment aux enfants ?» Une exposition, Isabelle Pasquier, qui commence par des dessins d'enfants rescapés.
Le génocide des Tutsis regardé avec les yeux des enfants, c'est ce que nous montrent ces dessins d'enfants rescapés. Au Rwanda, il y a 25 ans, des milliers d'enfants ont été torturés, assassinés. Et selon l'UNICEF, 70% des enfants ont été témoins de mises à mort, de violences extrêmes et le plus souvent contre leur famille. Devant nous, le dessin de Paul qui raconte l'indicible. Une tête coupée, des corps démembrés, une maison en feu. Paul s'est représenté, tout petit, caché dans un champ de sorgho. Effroi aussi à Drancy, devant des machettes, un biberon, des habits d'enfant prêtés par le mémorial de Kigali. Marcel Kabanda a perdu toute sa famille en 1994. Aujourd'hui, il préside l'association Ibuka, qui veut dire « souviens-toi » en Kinyarwanda.
C'est peut-être ça qui est le seuil où un massacre bascule dans un génocide. C'est quand on commence à tuer les bébés, qui ne représentent pas une menace physique, politique, idéologique, etc. On est dans une logique d'extermination.
Et au mémorial de la Shoah, on dissèque la machine génocidaire, la politique raciale de la colonisation, avec des documents à charge contre la France, qui a encore beaucoup de chemin à faire avant de reconnaître sa responsabilité dans ce dernier génocide du XXe siècle.
Isabelle Pasquier, une exposition visible jusqu'au 17 novembre au mémorial de la Shoah à Paris et Drancy. En Libye, 10 jours avant une conférence nationale sur l'organisation d'élections, le spectre de la guerre civile refait son apparition avec l'arrivée des forces du maréchal Haftar aux portes de Tripoli. Un convoi armé de l'homme fort de l'Est libyen a pris position à moins de 30 km du siège du gouvernement d'Union nationale et il suscite les craintes donc d'un embrasement militaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui. Le SIDAction 2019 débute ce vendredi en France et pour trois jours destinés à convaincre de donner à cette association qui lutte depuis 25 ans contre le VIH. Elle finance à part égale la recherche, la lutte contre l'épidémie à l'échelle mondiale et l'aide aux malades en France. Autre grand défi, le dépistage de la maladie. En France, 6000 personnes découvrent chaque année leur séropositivité. Et surtout, c'est un chiffre qui ne diminue pas en raison notamment des fausses peurs qui entourent la maladie. Écoutez Sandrine Fournier qui dirige les programmes de SIDAction. Elle est interrogée par Tara Schlegel.
L'épidémie, elle est vraiment alimentée par des personnes qui n'ont pas encore été dépistées et qui ignorent avoir le VIH. Et la dynamique de l'épidémie, elle est vraiment à cet endroit-là. En fait, parce que une fois que les personnes sont efficacement traitées, elles ne transmettent plus le VIH aujourd'hui. C'est-à-dire que la quantité de virus dans le sang et dans les sécrétions est tellement faible qu'on ne peut plus le transmettre. Et c'est important de le dire parce que ça fait partie des peurs aussi qui nous empêchent d'aller nous faire dépister. Ce sont des peurs, bon, qui sont justifiées au regard de la situation sociale du VIH aujourd'hui. Dès lors qu'on a accès aux soins, bien entendu. Donc l'autre difficulté, c'est d'avoir accès aux soins pour certaines catégories de population. Mais sinon, lorsqu'on a accès aux soins, vraiment, on vit aujourd'hui une vie quasi normale. On a une espérance de vie qui est tout à fait équivalente à celle de la population générale. La difficulté, elle est d'abord sociale, c'est-à-dire qu'en revanche, si on a si peur aujourd'hui de contracter le VIH, c'est parce qu'on sait à quel point le VIH est discriminé encore aujourd'hui en France. C'est-à-dire que à différents moments de votre parcours, lorsque vous tombez amoureux, lorsque vous vous rendez dans un service de soins, vous n'êtes pas tout à fait traité de la même manière quand vous avez le VIH. Sur votre lieu de travail, le dire ou ne pas le dire, avec des conséquences qui, évidemment, peuvent être très négatives. Donc, vous voyez, c'est une situation très paradoxale dans laquelle, au fond, les progrès scientifiques sont considérables, mais où, dans le même temps, ça n'avance pas au niveau social. C'est-à-dire, on est toujours autant rejeté aujourd'hui en France quand on vit avec le VIH. Et c'est là-dessus vraiment qu'il faut qu'on progresse.
Sandrine Fournier de SIDAction. Quand l'homme le plus riche du monde divorce, les enjeux à la fois financiers et économiques sont énormes. C'est tout un secteur qui tremble. En début d'année, le fondateur et patron d'Amazon, l'américain Jeff Bezos et son épouse Mackenzie avaient annoncé leur séparation, provoquant l'inquiétude de la bourse sur une éventuelle perte de contrôle du PDG sur son entreprise. Finalement, Jeff Bezos conservera 75% des actions que possédait le couple et surtout l'intégralité des droits de vote lié à ses actions. À Washington, Grégory Phillips.
La future ex-femme de Jeff Bezos, Mackenzie, l'annonce sur Twitter. Elle laisse à celui qu'elle a épousé il y a 25 ans l'intégralité de ses parts dans le Washington Post et dans la société spatiale Blue Origin. Et surtout 75% des actions Amazon que possédait le couple. Les Bezos étaient encore propriétaires d'environ 16% du capital de l'entreprise. Leur fortune estimée à environ 136 milliards de dollars. Surtout, elle abandonne à Bezos Bezos tous les droits de vote liés à ses actions, ce qui signifie que le fondateur d'Amazon conserve les rênes de la société. Divorce à l'amiable donc, ce qui n'était pas évident car ce sont des révélations dans la presse à scandale sur une relation extra-conjugale de Bezos qui ont provoqué cette séparation. Mais au terme de la procédure, dans environ 3 mois, Mackenzie Tuttle restera propriétaire d'environ 4% du capital d'Amazon. Avec une fortune estimée à 36 milliards de dollars, elle va devenir la 3e femme la plus riche du monde. Et sur Twitter, lui aussi, Jeff Bezos la remercie pour son soutien et sa gentillesse.
Le temps de ce vendredi, du soleil dans le Grand Est, en Rhône-Alpes et en PACA, dans les Hauts-de-France et jusqu'au Languedoc-Roussillon, le ciel sera voilé de la pluie de la Bretagne à la côte atlantique. Les températures toujours fraîches ce matin, de moins 3 à 8 degrés cet après-midi. Midi comptait au plus chaud de 11 à 19 degrés.